RCF.
Le père Joseph Wrzesinski, son action au camp de Noisy ne laisse personne indifférent. Il commence à être connu, Axel Brodier. Et ce qui est frappant, marquant et déterminant aussi pour la suite des événements, ce sont les personnalités qui l'attirent et qui voient en lui quelqu'un d'un peu prophétique peut-être et qui ont envie de s'investir et de soutenir son action. Il faut évidemment citer deux noms, et notamment celui de Geneviève de Gaulle-Antonioz.
Oui, c'est-à-dire qu'il a la force dans toutes ses difficultés d'essayer d'attirer quelques personnalités qu'il choisit très soigneusement, mais qui chacune vont aussi faire tache d'huile et épauler du monde et aller attirer du monde. Et la grande figure marquante, c'est à partir d'octobre 58, Geneviève de Gaulle-Antonioz, donc la nièce du général de Gaulle, qui entend parler du camp et qui décide d'aller voir sur place. Alors elle reconnaît Ravensbrück. C'est une ancienne déportée de Ravensbrück et dans ces baraquements, dans cette boue, dans cette tristesse des visages, dans ce quasi-désespoir, elle reconnaît l'expérimentation carcérale des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale et elle se dit qu'elle ne peut pas rester sans rien faire face à ça. Et donc à partir de 59, elle va quitter son poste au ministère pour se consacrer beaucoup plus au camp. C'est la première grande figure. Il y a une autre grande figure, Alwin de Vos van Steenwijk, qui est une diplomate néerlandaise de l'OCDE. Alors, elle est polyglotte, elle parle anglais, allemand, hollandais, français parfaitement, etc. Et elle découvre le camp par un reportage dans Elle, parce que le père Joseph a réussi à décrocher un reportage dans Elle à Noël 59. Et donc, en 60, elle arrive, elle découvre le camp et elle aussi, elle est complètement bouleversée, traumatisée. Elle lui demande comment elle peut aider et il lui dit « montez des recherches sur le camp ». Ce qui est complètement paradoxal. Normalement, on dit bah, « allez distribuer du vestiaire, faire de la soupe, je sais pas, n'importe quoi ». Et lui, on a vu que c'est complètement aux antipodes de sa conception. Et il dit « si jamais on veut vraiment lutter de façon intelligente politiquement pour aider ce peuple, il faut d'abord le connaître ». Et ce peuple, on ne le connaît pas. Et c'est vrai qu'en fait, en France, comme dans les pays occidentaux, la connaissance de la pauvreté précarité, elle est extrêmement faible parce que on connaît le prolétariat, c'est ça qui intéresse les gens, le monde ouvrier, etc. Parce qu'on est dans un contexte de sécurité sociale, de prospérité des Trente Glorieuses. Donc on se dit la pauvreté, elle va disparaître. C'est un non-sujet. Et donc, on ne connaît pas, en France ni ailleurs, la pauvreté. Ouais. Qui sont les pauvres? Pourquoi on devient pauvre? Et si on ne comprend pas qui ils sont et comment on tombe dans la pauvreté, on ne peut pas comprendre comment sortir les gens de cette pauvreté.
Alors qu'est-ce qu'elle entreprend?
Alors elle va monter un bureau de recherche sociale, elle en prend la tête, et donc elle va monter des recherches quasiment sociologiques, s'attirer des sociologues, des psychologues, des médecins, pour comprendre cette population. Les gens d'ATD, les volontaires, vont eux-mêmes écrire tous les jours, comme des sociologues aujourd'hui, avoir un petit carnet où ils notent tous les jours ce qu'ils ont observé, ce qui permet à la fois de consigner et puis de distancer son expérience, de l'analyser, de mieux la comprendre. Donc c'est des approches encore un peu amateurs, mais vraiment complètement scientifiques et pour d'autres vraiment professionnels. Jean Labins, par exemple, qui est un sociologue lyonnais de cette époque, va faire des enquêtes sur la population du camp. Et donc pendant les années 60, on va acquérir des vrais chiffres, des vraies données sur qui sont ces personnes dans la grande pauvreté.
Est-ce que ça coïncide avec la fondation du mouvement ATD, Aide à toute détresse?
Oui, c'est l'époque où tout se structure. Alors, Aide à toute détresse, c'est une histoire très compliquée parce que au début, il y a deux associations. L'association des Amis du Hameau pour les amis de l'association, un groupe de population du camp qui se fédère lui-même en association pour gérer le camp. L'association des Amis du Hameau va disparaître au profit d'Aide à toute détresse qui naît en 1961, qui devient Aide à toute détresse Quart-Monde à partir de 1968-69. Après, ça va s'internationaliser, s'européaniser dans les années 71 pour avoir accès au financement européen. Donc c'est une construction institutionnelle lente qui n'a pas un grand intérêt en soi, mais en fait c'est vraiment
tout un processus. À l'initiative de Joseph Wrzesinski.
Ah ben c'est lui qui pilote tout en fait. Il est vraiment aidé par quelques alliés. Il y en a un autre qu'on n'a pas cité, c'est André Hettès qui est directeur adjoint de Dassault. On imagine mal comment il arrive, sa journée entre sa vie privée, sa vie professionnelle et le camp, je ne sais pas combien d'heures il dort par nuit. Mais donc il a quelques alliés très très solides qui ont des réseaux nationaux, internationaux, dans le monde de l'entreprise, chacun ayant son type de réseau et qui vont aider le camp à véritablement s'installer.
Vous avez parlé au tout début de nos entretiens, Axel Brodier, de la proximité entre l'œuvre de Joseph Wrzesinski et Emmaüs. À quel moment est-ce que les deux se séparent?
Alors justement, dans ces années, en fait en 1960 très concrètement, Emmaüs a la gestion du camp jusqu'en 1960. C'est assez calamiteux et Emmaüs le sait hein, qu'il gère mal le camp. Mais en fait, eux, ils veulent à la place, ils ont une société d'HLM et ils veulent construire des HLM, donc ils veulent enlever de camp pour construire du HLM. Et le père Joseph, c'est pas exactement ça qu'il voudrait parce qu'il sait que le HLM n'est pas accessible aux populations vraiment les plus démunies, qui n'ont pas les capacités financières, sociales, etc. pour se maintenir dans un vrai logement social. Il faut quelque chose de niveau, j'allais dire, un peu en dessous, ce qu'on appelle des logements de transit ou des PSR à cette époque, etc. Donc, ils n'ont pas la même conception. Et Emmaüs est incapable de déléguer des responsables solides. Donc, entre 57 et 60, c'est vraiment une période très tendue. Et à partir de 60, Emmaüs délègue complètement la gestion du camp au père Joseph. Il y a des accords. Et donc, à partir de 60, c'est le père Joseph qui est le responsable et qui prend la main.
RCF, la suite de l'histoire.
Et il a donc les mains libres et toute la marge de manœuvre dont il a besoin et à laquelle il aspire pour développer son œuvre.
Exactement. Et donc à partir de là, il impose sa conception qui est, alors c'est intéressant parce que donc c'est cette bibliothèque, ce foyer féminin avec tout un cycle du linge, du vêtement, etc. Un foyer pour les hommes, de l'apprentissage professionnel, notamment à l'électricité, à la mécanique pour les adolescents. Et quand on regarde aujourd'hui ce que l'Union européenne prône en termes d'investissement social, eh ben en fait il fait de l'investissement social avant la lettre. C'est de dire, pour sortir les gens de la pauvreté, il faut agir dès l'enfance, il faut agir par le levier professionnel pour au moins réinsérer la génération suivante, parce que sinon mécaniquement un pauvre fabrique des pauvres. Vous vivez dans des pauvres conditions, vous n'avez pas des conditions correctes pour faire vos devoirs, vous êtes obligé de travailler très tôt et donc vous ne suivez pas un cursus professionnel intéressant, etc. Et donc vous avez un travail de misère et donc vous retombez vous-même dans la misère avec des enfants qui reproduisent la misère. Et c'est une des choses que les études scientifiques datées d'Eckermont dès les années 60 ont le mieux mis en évidence, c'est qu'en fait il y a une reproduction générationnelle et que ces pauvres souvent ils sont pauvres depuis des générations et des générations. On n'arrive pas à s'en sortir depuis des générations. Donc le père Joseph dit, moi, je vais essayer de briser cette spirale générationnelle et de faire en sorte que la génération qui suive, et donc aussi les parents comme levier pour les enfants, puissent se remettre dans une dynamique d'insertion.
Un mot sur le personnage.
Oui.
C'est une personnalité hors norme, forcément, pour avoir entrepris tout ça. On a parlé de ses origines. Qu'est-ce qui le caractérise en termes de tempérament, de manière d'être, de rapport aux autres ?
Alors, c'est difficile de le dire parce que moi, je ne l'ai pas connu, mais visiblement, c'était quelqu'un d'assez charismatique, qui sait être colérique, qui sait s'emporter, qui est toujours pressé, mais qui, en même temps, a toujours un crayon dans la main pour essayer de noter, qui est à la fois dans son bureau, dans les familles, auprès des familles. L'abbé Pierre est quelqu'un qui, par exemple, n'est pas un gestionnaire, mais qui est tout le temps en voyage, tout le temps en train de communiquer à la radio, etc. Le père Joseph n'est pas du tout un homme médiatique. C'est plutôt Geneviève de Gaulle ou Elvin de Vos qui vont essayer de faire l'interface. Lui, il est un homme de ce peuple et il invente des leviers pour mettre en place que lui, il n'a pas eu la chance sans doute d'avoir quand il était jeune.
Est-ce que c'est un homme de prière ?
C'est un homme de prière, mais pour le coup, comme l'abbé Pierre et comme tout prêtre, hein, Monseigneur Rodin qui a fondé le Secours catholique est aussi un homme de prière. Il disait la messe, il priait, exactement comme l'abbé Pierre. Il a voulu instaurer un ordre de monial dans le camp. Il aurait rêvé qu'il y ait des sœurs qui prient aux côtés des personnes du camp. Et ça n'a pas bien marché, mais de même que l'abbé Pierre avait voulu instaurer un ordre des moines de la misère auprès des compagnons d'Emmaüs, et ça n'a pas marché non plus. Parce que sans doute que c'était trop tard et que l'époque était révolue.
Il a vécu longtemps au sein du camp ?
Il a toujours vécu,
toujours.
Alors toujours autant que le camp ait vécu, c'est-à-dire que finalement le camp petit à petit finit par se résorber avec l'accompagnement d'Emmaüs, avec l'accompagnement des pouvoirs publics. La grande idée du père Joseph et des gens du camp de cette époque, c'est de faire une cité de promotion sociale et familiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la population en logement HLM normaux et donc on va faire une structure d'accompagnement intermédiaire, d'accompagnement social et d'accompagnement familial, parce qu'à cette époque, beaucoup d'enfants sont placés. Et donc, il faut trouver des façons de ne pas disloquer la famille, d'accompagner la parentalité. Et donc, il va petit à petit. Alors, ça met un temps fou parce qu'on lui donne pas les terrains, parce qu'on lui donne pas les autorisations. Donc, ça met quasiment 10 ans. Et à partir de 70, il y a l'autorisation de faire cette cité. Et en 71, une autre pour les familles encore plus déstructurées à Herblay, donc un peu plus loin en région parisienne, un peu de l'autre côté. Et donc, à partir de là, le camp de Noisy en tant que tel n'existe plus. Et c'est la cité de promotion et puis des logements HLM d'Emmaüs qui vont prendre place.
Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce modèle de gestion du camp, c'est répandu.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres bidonvilles, en particulier le bidonville de la Campa, la Courneuve, qui vont solliciter ATD pour essayer de reprendre aussi les choses en main. Mais il va fermer beaucoup plus vite. Il va être résorbé par les pouvoirs publics au milieu des années 60. Et il va moins y avoir ce côté expérimental. Noisy, c'est vraiment...
Le laboratoire.
Exactement. Un camp laboratoire. C'est quand même aussi, effectivement, vous avez raison, une période d'expansion du mouvement. Alors, dans des bidonvilles, parce qu'ATD Quart-Monde se dit finalement, on va essayer aussi de s'implanter dans d'autres bidonvilles pour d'autres populations en difficulté. Donc à Toulon, dans le sud de la France, à plusieurs endroits, il y a des petites implantations. Il y a aussi des implantations dans ce qui se développe à l'époque pour résorber les bidonvilles qui sont des cités de transit. Donc dans ces années 60, petit à petit, ATD fait tache d'huile. Il y a des volontaires qui vont s'implanter dans d'autres zones très pauvres de France et développer le mouvement. Et puis, va aussi s'internationaliser puisque il y a des volontaires qui rentrent chez eux, qui passent par le camp et qui redéveloppent le mouvement ailleurs où il y a des implantations. Donc ça fait tache d'huile en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Donc c'est vraiment une période d'expansion. Mais Noisy reste toujours avec une conception, ça reste le laboratoire matricien.
Merci beaucoup Axel Le Breudier, on vous retrouve demain.